Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère et d'établir l'office et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la voix de la République islamique d'Iran en ce mardi soir 31 août 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne, bienvenue dans le journal. Téhéran affirme son droit de vendre son pétrole à tout pays prêt à en acheter, selon le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Le président libanais Michel Aoun appelle les Libanais à s'unir autour de l'institution militaire. La Syrie soutient la Chine face aux pressions américaines. Et des combats se sont intensifiés à Ma'arib au Yémen. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Téhéran a commenté lundi de l'expédition au Liban de pétrole iranien annoncée dernièrement par le Hezbollah, affirmant que l'Iran a le droit de vendre du carburant à tout pays prêt à en acheter, que cette opération entre dans un cadre commercial légitime et ne peut donc pas être interdite par Washington. L'envoi de chargement de pétrole aux clients de l'Iran est une affaire de souveraineté et notre pays a le droit de vendre du pétrole et du carburant à n'importe quel État prêt à l'acheter, a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne Saïd Khatibzadeh. Ni les États-Unis ni aucun autre pays ne peuvent empêcher le commerce légitime, a-t-il souligné. Le peuple libanais est un peuple riche qui n'a pas besoin que l'on vienne à son secours. Il a uniquement besoin que certains États arrêtent de politiser de toutes ces affaires et laissent les Libanais assurer leurs besoins par eux-mêmes, a souligné le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Et au Liban, le président Aoun appelle les Libanais à s'unir autour de l'institution militaire. Le président libanais, le général Michel Aoun, a appelé l'armée et les forces de sécurité à la vigilance face aux activités terroristes qui pourraient tenter de profiter des défis économiques auxquels le Liban peut faire face pour provoquer plus de chaos. S'exprimant à l'occasion de la 4e commémoration de la fin de l'opération OPD, jure contre les groupes terroristes qui étaient installés dans une zone libanaise frontalière avec la Syrie, le président Aoun a souligné que la victoire contre les terroristes de Daesh en août 2017 n'aurait pas pu être atteinte sans le sang des martyrs qui sont tombés pour protéger le peuple et le territoire libanais et sans la coopération de toutes les institutions sécuritaires qui ont permis de révéler les réseaux trouver cellules terroristes et d'en venir à bout. Le président Aoun a appelé l'armée et tous les organes sécuritaires à faire preuve de vigilance constante face aux activités et plans terroristes qui visent à perturber la sécurité et la stabilité, à exploiter les conditions et défis économiques actuels pour provoquer encore plus de chaos afin de réaliser des objectifs extérieurs. La Syrie réitère de son soutien à la Chine face aux pressions américaines. La Syrie a réitéré son soutien à la position juste de la Chine face à la politique de pression et d'extorsion menée par les États-Unis sous prétexte de faire une enquête de renseignement dont les résultats sont déjà connus sur la raison de l'apparition et de la propagation du coronavirus. Dans un communiqué, le ministère syrien des Affaires étrangères a fait noter « La République arabe syrienne réitère son soutien à la position juste de la Chine face à la politique de pression et d'extorsion adoptée par les États-Unis sous prétexte de mener une enquête de renseignement dont les résultats sont déjà connus. » Le ministère a ajouté que la dernière déclaration donnée par le président américain le 27 août en cours et qui met en exergue le rapport du comité des services de renseignement américain sur l'apparition du coronavirus démontre une quête inlassable de politiser un dossier ayant un aspect scientifique pour viser et extorquer. L'État chinois, dans le cadre de l'escalade de la politique de pression permanente de la réalisation des acquis et de l'exécution d'une politique américaine qui se contredit avec les principes du droit international qui cause l'escalade et la tension et qui ne sert point les objectifs nobles que l'humanité escompte pour conjuguer les efforts internationaux afin d'assurer le vaccin à tous les pays du monde sans discernement. Le ministère syrien des Affaires étrangères a ajouté que Damas soutient la déclaration donnée le 24 août 2021 par le ministère chinois des Affaires étrangères sur le fait que la solution optimale de savoir l'origine et la raison de l'apparition du coronavirus réside dans la mise en place de recherches scientifiques faites par des savants spécialistes de tous les pays du monde. Et le ministère de conclure, le gouvernement de la République arabe syrienne remercie les amis en Chine pour leurs efforts et leur rôle pionnier dans le cadre de l'OMC et dans le domaine de l'action humanitaire et pour leur soutien permanent à la Syrie face à la propagation du coronavirus. Alors que les affrontements s'intensifient sur plusieurs fronts dans la province de Ma'arib au Yémen, les sources sur le terrain dans le sud du pays font état de l'arrivée des troupes américaines depuis l'Afghanistan et leur déploiement sur la base d'Al-Anad. Les affrontements à Ma'arib dans l'est du Yémen se sont intensifiés. Les forces de l'armée yéménite et des comités populaires menant des combats sur plusieurs axes, ont rapporté les médias yéménites. Les forces de Sanaa ont lancé une opération d'envergure sur plusieurs fronts à Ma'arib, ciblant les forces de la coalition d'agression saoudienne dans la base militaire de Saran à Lejan, conjointement à une frappe de drones lancée sur la base du roi Khalid Khamis al-Mushaid en Arabie Saoudite. Selon le rapport, la base militaire de Sahnaljan, près de la ville centrale yéménite de Ma'arib, a été le théâtre de violentes explosions. Le rapport poursuit en indiquant que l'escalade des combats à Ma'arib intervient après l'échec des démarches diplomatiques pour l'arrêt de la guerre et l'opposition de la coalition d'agression saoudienne au plan de Sanaa pour mettre fin au conflit à Ma'arib. Le site web al-Mashhad al-Yémen a rapporté à cet égard que les affrontements se déroulaient à l'aide de diverses armes lourdes sur divers fronts à Marib, ajoutant que les forces de Sanaa ont intensifié leurs attaques et que la région est témoin de bombardements d'artillerie et de missiles des deux côtés. Côté saoudien, les mercenaires de la coalition saoudienne ont pris pour cible au cours de ces derniers jours plusieurs zones à Sarwa, dans l'ouest de Marib, a rapporté l'agence de presse Sabah à Aden. Les élections locales anticipées en Algérie sont fixées au 27 novembre. L'Algérie a fixé la date du 27 novembre prochain pour organiser des élections locales anticipées. À cet effet, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a convoqué le corps électoral et a indiqué dans un communiqué la présidence de la République d'Algérie. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a signé un décret présidentiel portant convocation du corps électoral en vue des élections anticipées des assemblées populaires communales et de Wilaya prévues pour le samedi 27 novembre 2021, précise le texte. Par ailleurs, le décret prévoit la révision exceptionnelle des listes électorales durant la période allant du 5 au 15 septembre. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle en provenance de l'Afrique et plus précisément en provenance de l'Algérie, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Téhéran, Damas, déterminés à renforcer leur partenariat stratégique, ce dont nous parlerons dans notre commentaire politique. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a rencontré à Damas le président syrien Bachar al-Assad, soulignant que la présence des forces étrangères n'aidera pas à la sécurité et à la stabilité durable dans la région sensible du Moyen-Orient. Le chef de la diplomatie iranienne a déclaré « Sans aucun doute, les consultations et la coopération entre les pays de la région et les pays musulmans joueront un rôle important dans la création d'une sécurité durable dans notre région. » Toujours lors de cette rencontre, Amir Abdollahian, se référant à l'examen des dernières évolutions régionales, a souligné « Tout arrangement politique et sécuritaire dans la région sera conclu avec la participation de tous les pays de la région, y compris la Syrie. Et à cet égard, nous considérons important le rôle de l'Irak et de la Syrie pour aider à créer de nouvelles installations régionales dans les domaines économiques, politiques et de la sécurité. » Il a ajouté « La présence de forces étrangères dans la région n'aidera pas le rétablissement de la sécurité et de la stabilité durable dans cette région sensible. » Le chef de la diplomatie iranienne a poursuivi « Nous menons des consultations étroites sur les évolutions afghanes. Nous pensons que la formation d'un gouvernement inclusif en Afghanistan en tant que de solution politique devrait être envisagée par toutes les parties. » Soulignant que les sionistes sont une cause importante d'insécurité dans la région, Amir Abdollahian a précisé « Les sionistes ont capturé des musulmans, des chrétiens et des juifs dans la région et sur les terres historiques de la Palestine. » sans aucun doute, les consultations et la coopération entre les pays de la région et les pays musulmans joueront un rôle important dans le rétablissement d'une sécurité durable dans notre région, a-t-il souligné. Les deux parties ont affirmé que l'avenir de la région dépend de la volonté de son peuple et que la coopération constructive avec d'autres pays passe par la réponse à cette volonté et de la non-intervention dans les affaires intérieures de leur pays. Le président syrien Bachar al-Assad a affirmé que la coopération continue entre de la Syrie et l'Iran avait porté ses fruits et donné des résultats positifs dans la protection des intérêts des deux pays et peuples amis, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, soulignant que la Syrie continuera à lutter contre le terrorisme jusqu'à la libération de tous ces territoires.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler de la visite du président français en Irak, une France qui se lance dans une nouvelle aventure, ou plutôt une France qui tourne en rond. Alors le président français a dit qu'il était là, participant à cette conférence, pour renforcer la souveraineté de l'Irak et il a dit que ce pays se dirigeait vers la stabilité et le développement. Mais le plus grand souci de cette conférence est bien sûr l'Afghanistan, où l'OTAN, Israël et bien sûr les États-Unis ont essuyé un échec catastrophique. Alors, selon beaucoup d'experts politiques, la France devrait plutôt balayer devant son domicile plutôt que s'occuper de la sécurité des autres pays. Quand il est question de la paix et de la sécurité, surtout dans cette région, la France n'a pas un passé très fameux. Voilà, alors nous allons essayer de joindre nos chers invités, en commençant par M. Pierre Dortiguier. M. Pierre Dortiguier, est-ce que vous nous entendez? Si oui, bonjour. Malheureusement pas, nous allons essayer de le joindre tout à l'heure. Mais voilà, donc une visite avec beaucoup de participants. Beaucoup de pays ont participé à cette conférence en Irak, mais la Syrie n'a pas été invitée exprès, bien sûr, car selon la France, c'est un obstacle pour le développement de l'Irak. Nous ne savons pas pourquoi, mais cette visite a montré une nouvelle fois que la France s'est montrée très opportuniste face à la situation qui règne en Afghanistan, où les forces américaines ont quitté à 100% le sol afghan, ainsi que tous les autres pays, les ressortissants des autres pays, et la sécurité est revenue plus ou moins dans l'aéroport de Kaboul. Mais jusqu'à quand cela va continuer? Car la France s'est montrée donc très disponible pour faire régner la sécurité et la stabilité dans ce pays. Mais nous savons tous que derrière cette pensée, il y a bien sûr cette grande opportunité d'être très présent au niveau de l'économie. Voilà. Alors mes collègues me font signe en me disant que notre contact avec M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse, est prêt. M. Dortiguier, bonjour.
Bonjour monsieur, excusez-moi d'être en retard, oui.
Non, je vous en prie, tout le plaisir est pour nous, M. Dortiguier, d'être avec nous.
Merci,
alors,
merci beaucoup.
Ma première question va s'adresser à vous. Alors, la France s'est rendue en Irak pour participer à cette conférence en disant que nous sommes à côté de l'Irak pour renforcer sa souveraineté nationale. Mais nous savons très bien que la France est là pour avoir une présence très forte en Afghanistan. Que pensez-vous?
Oui, en effet, cette conférence de Bagdad était une façon pour le représentant de la France, donc pour M. Macron, d'affirmer la présence, bien sûr, c'est une très bonne chose en Irak, mais bien sûr, l'essentiel pour lui était de montrer les liens que la France voulait entretenir avec, disons, le nouvel état de choses en Afghanistan. Et je crois que de ce point de vue, il semble que M. Macron, enfin que la France, ils ont à travers lui, la France qu'il représente, a été investi certainement, disons, c'est de la politique évidemment un peu cachée, mais par les Américains, etc., de jouer un rôle quand même dans ce domaine-là, et de présenter, disons, à l'opinion internationale, ce qui se produit en Afghanistan comme étant deux choses différentes. À la fois une menace, la possibilité d'une menace terroriste générale, en même temps que l'obligation que la France a d'aider justement l'Afghanistan à lutter contre cette même menace. Voyez-vous, c'est un peu, je dis pas ambigu, mais c'est une manière, disons, d'affirmer la présence, en tout cas ça a été dit, alors lui, la présence, indépendamment des Américains, de la France en Afghanistan. Je veux dire, nous avons encore, je crois, de 800 hommes. Eh bien, la France, donc, est appelée à y demeurer. Quel rôle peut-elle y jouer? C'est une chose, évidemment, qui échappe un peu à l'observation, parce qu'il semble qu'il y ait derrière une diplomatie ouverte, voyez, une autre diplomatie peut-être plus discrète. Je n'ose pas dire secrète, mais plus discrète. Et évidemment, là, nous avons beaucoup d'interrogations. Je dois dire que, autant nous nous félicitons des rapports que M. Macron a pu avoir à Mossoul, par exemple, avec les différentes confessions religieuses, etc. Oui, ça c'est bien, nous en sommes réjouis. Mais disons que cette relation avec l'Afghanistan ne nous semble pas claire et dénuée d'intention, qu'on dirait de penser de derrière la tête, comme on disait autrefois. Vous voyez, je crois qu'il faut être très prudent, et je dirais simplement une chose, un commentaire, que j'ai dit hier à la radio, je crois, c'est que je me rappelle très bien d'un article du Tehran Times de février, je crois que c'est le 5 février 2019, dans lequel un général Safavi, je crois, si j'ai une bonne mémoire, qui était attaché auprès du guide suprême, comme conseiller militaire, disait que les Américains avaient, disons, dispatché, avaient distribué, disons, des terroristes en Afghanistan. Après, on mentionnait Daesh, etc. D'accord. Je crois que nous sommes quand même à la veille de, disons, de troubles. Je ne dis pas de troubles immédiats, mais disons, la situation ne nous semble pas très claire. Et disons, elle nous semble même, disons, un peu délicate et difficile.
D'accord.
On présente, disons, la présence de la France, on présente, disons, la position des Occidentaux comme étant celle de respecter le peuple iranien, le peuple afghan. En même temps, on dit que le peuple afghan n'a pas été capable, c'est l'opinion de Biden, vous savez, injurieuse, bien sûr, de se défendre. On l'accuse même de manquer de patriotisme, enfin, ce qui est ridicule, bien sûr, et une contre-vérité. Je pense que il faut, disons, être très prudent quant aux perspectives d'avenir, et que, sans vouloir dire comme M. Macron que nous reconnaissons les talibans, quoi que ce soit pas une reconnaissance officielle, disons, nous les tenons comme un fait, etc. Tout ceci nous semble pas très clair, disons. Et je dois dire que il faut évidemment que chacun des pays concernés par cette conférence de Bagdad sache que si une situation n'est pas claire, elle est prête évidemment à toutes les manigances, voyez-vous. En tout cas, je trouve que l'intérêt de cette conférence de Bagdad a été, comme on le dit ici, de confronter des points de vue opposés dans la région. Si cela peut aboutir, bien sûr, à une certaine cohérence, disons, en particulier à un changement de la politique au Yémen, par exemple, je crois que c'est cela qui était en arrière-plan, ceci serait excellent. Mais
absolument.
Je crains que l'Afghanistan ne soit, nous craignons, d'ailleurs je ne suis pas le seul, vous savez, nous craignons ici que l'Afghanistan ne soit une sorte de poudrière dans l'avenir. Voilà.
Un grand bonjour cette fois à M. Philippe Hugon, reporter de guerre depuis Paris. M. Hugon, bonjour et comment allez-vous?
Oui, bonjour, merci. Bonjour à toute l'équipe et à vos invités et à vos auditeurs.
Un plaisir de vous recevoir dans cette émission Le Débat, M. Hugon. Alors, la même question à vous. M. Pierre d'Ortigui a posé beaucoup d'interrogations sur les futures relations entre la France et l'Afghanistan, alors que tous les troupes et les ressortissants étrangers ont quitté le pays. La France semble très présente dans ce pays. Et justement, le porte-parole des talibans a dit que nous sommes donc prêts d'avoir des coopérations très étroites avec la France.
Oui, alors, permettez-moi de rigoler un petit peu devant une éventuelle collaboration entre les talibans et la France. Alors la France, qui prétend être le pays des droits de l'homme, est aujourd'hui un pays qui défend les libertés, et aujourd'hui on a un pseudo-chef d'État qui va négocier avec des criminels. Les talibans sont des criminels. Il est vrai que Macron est un criminel durci, hein, par les décisions qu'il prend. Eh bien, entre criminels, ils peuvent s'entendre. Ce qui est absolument surréaliste de voir une chose comme ça. On ne discute pas avec des forces militaires comme les talibans, qui vont imposer un certain nombre de décisions au peuple afghan. Ces gens-là ont déjà fait des milliers de morts en Afghanistan, et ça va continuer. Comment un pays comme la France peut venir parler de paix avec des responsables talibans? Alors c'est sûr que la communauté internationale, c'est synonyme d'échec politique à tous les niveaux. Il faut savoir que les Américains sont restés 20 ans en Afghanistan et ils n'ont pas été capables d'apporter la paix. D'ailleurs, les Américains n'ont jamais apporté la paix. Ils n'ont amené que la misère, le désordre et le chaos. Eh bien, ça continue également. Ce qu'il fallait faire en Afghanistan, c'était construire des écoles, c'était construire des universités, des hôpitaux, relancer l'économie. Eux, ils n'ont rien fait. Ça. Au contraire, aujourd'hui, ils s'en vont en laissant aux talibans des hangars complets d'armes à feu. Armes que va bien sûr récupérer les criminels de Daesh. Donc je trouve que la position de la France est plus que scandaleuse. Alors je me demande comment ce dictateur de Macron puisse aller parler de liberté, de discussion, de processus de paix. Vous savez, Macron, c'est pas trop qui fait. C'est une sorte hybride de la politique. C'est un sous-homme. C'est quelqu'un qui n'a aucune conviction politique. Il a le charisme d'une boîte de camembert. C'est impressionnant que l'on puisse laisser la France à un dictateur comme Macron, qui va imposer des tas de choses au peuple français. Il est incapable de gérer les problèmes franco-français, et ce type-là va à l'étranger, à Doha, au Qatar, négocier avec des criminels, va maintenant participer en Irak, alors que nous avons été, nous aussi, complices de meurtres commis en Irak. Hein. Je rappelle quand même qu'il y a eu des centaines, on parle même de 2 millions de morts, hein. On ne sait pas exactement, puisque tous les chiffres donnés par les médias occidentaux sont faux. Donc comment est-ce que l'on peut apporter une crédibilité à quelqu'un comme Macron? Il suffit de le regarder dans les yeux, il a le regard vide. C'est quelqu'un qui n'a aucune conviction, qui n'a aucune puissance, qui ne représente absolument rien. La France ne représente plus rien. Même les costumes de Macron sont hypothéqués, puisqu'on n'a plus les moyens de s'occuper même des Français qui crèvent dans la rue. Et aujourd'hui, on a ce pseudo-président qui prétend pouvoir régler les problèmes du monde. Mais c'est complètement ridicule. On est dans une sorte de lunapark, une sorte de cirque. Et je ne comprends pas que l'on puisse apporter la moindre crédibilité à ce sous-homme.
Monsieur Hugon, donc vous dites que Emmanuel Macron devrait plutôt balayer devant son domicile au lieu de s'occuper de la sécurité, soi-disant sécurité des autres pays?
Ah ben tout à fait, vous savez, il y a des milliers de gens qui meurent de faim dans les rues. L'État est en faillite financière. Je crois qu'on est à 118% de dette du PIB. Donc c'est monstrueux. Je dis bien, même ses costumes doivent être hypothéqués. Je suis surpris qu'il n'y ait pas eu encore un huissier qui vienne saisir le palais de l'Élysée pour le vendre aux enchères. On n'a plus beaucoup d'argent. Et on prétend régler les problèmes du monde. Il ne s'occupe de rien du tout en France. Toutes les décisions qu'il a pu prendre depuis quelques années maintenant, ce sont de mauvaises décisions. Il nous impose un passe sanitaire qui ne sert à rien. Il oblige les gens à aller se faire vacciner parce que c'est un maître chanteur. Hein. C'est un homme qui fait du chantage aux Français de perdre leur travail s'ils ne se font pas vacciner. Alors avant de vouloir donner des leçons de morale à des gens comme Bachar al-Assad, qui gère d'ailleurs très bien son pays, eh bien il serait mieux de se regarder dans la glace. Eh bien ce qu'il y verrait, c'est pas beau, parce que c'est l'homme d'un criminel.
Oui, tout à fait. Pierre d'Ortiguier, quand on parle de la sécurité et de la paix dans la région, évidemment, la France n'a pas un passé très fameux. Est-ce que vous partagez la colère de M. Hugon?
C'est une colère, en effet, qui est tout à fait française et je sais que on peut peut-être la trouver avec des accents un peu anarchiques. Oui, c'est vrai, mais je dois dire que j'entends vraiment d'une part de très grandes récriminations contre M. Macron, et d'autre part, je dirais qu'il n'a pas non plus devant lui d'opposants à la hauteur ou d'opposants, disons, qui soient crédibles. Et c'est cela qui fait que nous pouvons penser, par exemple, que si tout se passe bien pour lui, il pourra reprendre un poste poursuivre un autre quinquennat. L'opposition de Mme Le Pen, tout ça, n'est absolument pas crédible, voyez-vous. Et dans la droite, nous n'avons personne, nous avons vraiment... C'est la première fois que je vois, disons, des gens qui vont aux élections intérieurement en reculant. Non, qui s'aspirent à ne pas être élus, justement, à cause, je dis bien, qui aspirent à ne pas être élus, à cause, justement, de la situation terrible que vient de décrire mon ami Philippe Hugon. En effet, nous sommes dans une situation catastrophique avec une défaite des classes moyennes, etc. Et nous aurons, disons, certainement à la rentrée, dans septembre, octobre, certainement un bilan à faire qui sera vraiment terrible. Je dirais bien, bien pire que ceux des autres pays européens. Ceci étant dit, M. Macron a certainement reçu une mission, bien sûr, une mission confiée à la France pas seulement par les États-Unis, bien sûr, mais aussi avec un certain assentiment, disons, ou une neutralité de la part de la Russie et de la Chine, qui, je le répète, je parle en particulier de la Chine, a quand même salué l'arrivée des talibans comme étant quelque chose, disons, qui pouvait être une sorte de stabilité dans le pays, etc. Il semble qu'il y ait derrière cela, voyez-vous, une diplomatie, je répète, secrète, qui échappe au peuple. Bon, évidemment, le peuple ne peut pas connaître toutes ces choses-là quand dans l'opinion publique, mais nous pensons qu'il y a un souci quand même exprimé par M. Macron, qui est un souci de certaines forces occidentales, je dis bien certaines forces occidentales, dont certainement le M. Biden, de vouloir maintenir une présence en Afghanistan, et ce, à l'occasion d'un désordre intérieur. Voyez-vous, c'est une ruse, à mon avis, quelque chose qui n'est pas honnête, disons, quelque chose qui est... comment vous dire, ce sont des manigances, tout ceci, couvertes de grands mots, bien sûr, comme toujours, mais nous avons vraiment peur de cela, et surtout, cet argument du terrorisme qu'on va maintenant gonfler, qui va peut-être être aussi marqué par des attentats, peut-être, pourquoi pas, en Europe occidentale, que l'on mettra sur le compte, justement, de Daesh, sur le compte, disons, d'une zone troublée, et on essaiera d'y mêler tous les pays musulmans, par en particulier, ou tous les pays d'Orient. Tout ceci ne nous semble pas être, disons, vraiment net. Nous n'aimons pas du tout ce genre de tour de passe-passe qu'on nous fait. Je pense que l'Iran est menacé. L'Iran, à mon avis, c'est mon impression, mais je voudrais me tromper, bien sûr. Je pense qu'on veut menacer l'Iran et l'axe de la résistance en particulier en ouvrant un front, si je puis dire, afghan, vous voyez ? En disant, vous voyez, il y a un terrorisme, etc., il faut qu'on intervienne et tout, le terrorisme se forme, etc. Écoutez, nous avons nous-mêmes connu l'arrivée des talibans avec M. Brzezinski, qui était le conseiller de Carter, ça fait 20 ans. Et 20 ans, oui, avant ce fameux 11 septembre, dont nous allons célébrer l'anniversaire aussi bientôt. Écoutez, depuis lors, ces interventions américaines et alliées n'ont causé que des désordres à l'intérieur de l'Afghanistan. Je remarque, pour terminer, que la Bundeswehr, par exemple, qui était l'armée allemande, qui est engagée là-bas, et le gouvernement allemand, ne semble pas participer, voyez-vous, de l'euphorie générale. Je crois qu'ils ont compris qu'ils étaient tombés dans un piège et qu'ils veulent se retirer de l'Afghanistan. Je crois, malheureusement, que ce qu'a fait M. Macron, y compris sa gesticulation, sa manifestation dans le territoire kurde, par exemple, Erbil, aux côtés de M. Barzani ou d'un des membres de la famille Barzani, n'est pas non plus, disons, quelque chose qui est net, voyez-vous. Je crois que la France a une mission. Ce n'est pas à son initiative. Elle l'a reçue, cette mission. Je pense qu'elle l'a reçue de la part des États-Unis avec l'assentiment de certaines forces à l'extérieur, voyez-vous. Quel est le résultat de cela? Est-ce qu'on a promis, par exemple, d'assouplir certaines restrictions envers l'Iran? Ça, nous le verrons dans le discours même de M. Macron. Est-ce qu'il va abandonner, par exemple, ses remontrances contre l'Iran, par exemple, accusé de vouloir avoir l'arme atomique, etc. Tout ceci, voyez-vous, nous le verrons à l'usage, voyez. Mais cette ouverture de ce que j'appelle le second front afghan, ce front du terrorisme, je ne vois pas d'autre manière de qualifier la chose. C'est une menace, à mon avis, qui est très sérieuse et qui a été élaborée par ces Américains qui ont laissé quand même là-bas à peu près, dit-on, 80 milliards de valeurs d'armes. Quand même, il ne faut pas quand même nous prendre pour des benets, comme on dit, des gens simplés. Comment se fait-il que les Américains aient laissé autant d'armes en Afghanistan? Non, ça n'a pas de sens.
Philippe Hugon, évidemment, M. d'Ortiguier parle de cette ambiguïté de la politique française, mais nous avons une très forte impression que la France a fait dos aux autres membres de l'Union européenne, aux États-Unis et même à Israël, d'être donc toute seule en Afghanistan pour récupérer peut-être les armes délaissées par les États-Unis.
Oh non, moi je pense que de toute façon, cette entente a été élaborée de quelques temps maintenant par le monde occidental, enfin la France, les États-Unis. Les États-Unis ont laissé des hangars remplis d'armes un peu partout en Afghanistan. Ce n'est pas pour rien. Ce que le but aujourd'hui que des Américains, c'est de laisser les talibans prendre le pouvoir en Afghanistan et de déstabiliser à nouveau l'Iran, puisque l'Iran a 600 kilomètres de frontière avec l'Afghanistan. Donc ça va obliger les Iraniens à dépenser beaucoup d'argent pour protéger ses frontières. Je pense que l'Iran, cet argent, eh bien, il aurait pu l'utiliser à relancer l'économie, à développer son économie. Et à la place de ça, les Américains vont déstabiliser ce pays et vont lui faire dépenser beaucoup d'argent pour sa propre sécurité, avec la complicité de la France. Hein. Il faut bien savoir que la France est dirigée par un pion. C'est un sous-homme qui n'a aucune qualité. Et donc il suit ce qu'on lui dit et il fait ce qu'on lui dit de faire. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va pouvoir gérer quoi que ce soit. Il y a derrière des financiers et des gens très importants qui dirigent la France à sa place. Lui n'a pas les capacités intellectuelles pour diriger un pays comme ça. C'est un crétin, Macron, c'est un bâté. On ne peut rien attendre dans sous homme comme celui-là. Donc il est clair qu'il y a une véritable volonté de déstabiliser l'Iran, mais également d'apporter une véritable zone d'instabilité au Moyen-Orient, au Moyen-Orient, afin de pouvoir peut-être déstabiliser des pays également comme le Pakistan, vous savez, on peut tout attendre dans la politique américaine aujourd'hui. Hein, il faut savoir qu'ils sortent dans l'échec de 20 ans. Alors évidemment, ils ont pensé ce qu'il fallait pour. Mais c'était pas le but des Américains n'était pas de développer l'Afghanistan, c'était de créer une zone de conflit. Donc aujourd'hui c'est catastrophique pour les populations locales. Hein. Les Américains, les Français se foutent royalement qu'il y ait des milliers de gens qui soient assassinés à Kaboul après le retrait des Américains. C'est pas la préoccupation. Le monde occidental il joue pas là-dessus. Le monde occidental il va jouer sur ses propres intérêts géostratégiques. Donc c'est une conduite absolument scandaleuse. Et moi je souhaite d'ailleurs vivement l'effondrement à la fois de la France, bien sûr, puisque la France est en faillite, les Américains également. Et je souhaite vivement qu'il y ait un effondrement du monde occidental et des États-Unis. Au moins on aura une chance, une petite chance, de pouvoir ramener la paix le jour où les Américains ne seront plus là pour ingérer dans les affaires d'autrui. Hein, puisqu'ils sont très forts pour faire la morale à certains pays, notamment au Proche-Orient, et à côté de ça, ils n'hésitent pas à assassiner et ingérer dans des tas d'autres pays, puisque ce n'est pas le cas seulement au Moyen-Orient, mais c'est en Amérique du Sud, on l'a vu, c'est le cas en Asie. Donc il faut que ce soit cet effondrement du monde occidental, et là, la paix aura une chance de gagner le jour où les Occidentaux auront compris qu'il faut laisser
ces
peuples développer à leur vitesse et à leur façon et cesser d'ingérer d'une façon permanente dans ces pays.
Philippe Hugon, reporter de guerre depuis Paris, merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Un grand merci à M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse, d'avoir répondu à nos questions. Alors ici prend fin le débat d'aujourd'hui.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. Le nouveau ministre iranien des Affaires étrangères a réaffirmé la nécessité d'une sécurité régionale durable avec la participation des pays de la région, soulignant qu'il n'y aura pas de sécurité tant que les pays étrangers interviendront au Moyen-Orient. Ce dont nous avons plus que jamais besoin aujourd'hui, c'est une sécurité régionale durable avec la participation des pays de la région qui peut se matérialiser en utilisant des ressources économiques pour promouvoir la paix et le développement, a déclaré de Hossein Amir Abdullahian. Il a fait ses remarques en s'adressant à la conférence internationale de Bagdad sur le sommet sur le soutien régional à l'Irak visant à apaiser les tensions dans la région. La République islamique d'Iran a toujours souligné la nécessité de parvenir à la paix par le dialogue et la négociation régionaux et espère que les pays de la région parviendront à la compréhension commune que la sécurité ne sera assurée que par la confiance mutuelle, la confiance dans les capacités nationales, le renforcement des relations et du bon voisinage, ainsi que de la non-ingérence des pays étrangers, a-t-il souligné encore. Amir Abdullahian a salué les efforts de l'Irak pour contribuer à la coopération régionale, notamment en accueillant le sommet de Bagdad, et a promis le soutien l'Iran à son voisin à cet objectif. La République islamique d'Iran, tout en soutenant la stabilité, la sécurité, l'indépendance, l'intégrité territoriale, la dignité, l'autorité et la promotion de la position régionale et internationale de l'Irak, exprime sa volonté de développer la coopération bilatérale et régionale Téhéran-Bagdad, a-t-il déclaré encore. Tout en louant la résistance du peuple irakien, du gouvernement et des chefs religieux dans la lutte contre les groupes terroristes dont Daesh, le ministre iranien des Affaires étrangères a dénoncé les États-Unis pour avoir fomenté l'insécurité dans la région et assassiné deux hauts commandants antiterroristes, à savoir le général iranien Rassem Soleimani et l'Irakien Abu Mahdi al-Muhandes l'année dernière. Soulignant le rôle important des pays de la région, Amir Abdullahian a conclu ses remarques en réaffirmant la volonté de la République islamique d'Iran de faire avancer l'objectif de promouvoir le dialogue et la coopération régionale. L'Irak a ouvert la conférence de Bagdad visant à apaiser les tensions dans la région avec la participation des chefs et des responsables des pays de la région, dont l'Iran et des représentants d'autres pays. Amir Abdullahian était arrivé samedi à Bagdad à la tête d'une délégation pour assister à ce sommet. L'Iran exporte des équipements militaires vers 42 pays étrangers. En 2020, nous avons eu deux fois plus d'exportations de défense qu'en 2019, et cela a été atteint malgré de toutes les sanctions. Aujourd'hui, nous avons de bonnes relations d'exportation avec 42 pays et nos drones sont bien achetés par d'autres pays, a déclaré le ministre iranien de la Défense. Selon le correspondant politique de l'IRNA, le ministre iranien de la Défense a déclaré « Nous avons fait un travail très honorable dans le domaine des missiles et des missiles de croisière. Dans le domaine de la défense aérienne, nous avons eu de belles réalisations et nous avons la main pleine. Dans la guerre électronique, nous avons une très bonne réalisation. De bons équipements se sont produits dans le domaine de la défense, tels que les sous-marins, les navires de surface et les navires à grande vitesse », a-t-il souligné encore. Yémen, Ansar Allah met en garde Abu Dhabi contre la présence des Israéliens sur l'île de Maillon. Le mouvement de résistance yéménite Ansar Allah a lancé mercredi un sévère avertissement contre les Émirats Arabes Unis et leur présence sur l'île stratégique de Maillon où Abu Dhabi sert de paravent à Israël. L'île de Maillon et sa place stratégique non loin du détroit de Bab al-Mandeb sont la première raison de la présence de l'entité sioniste et des Émirats Arabes Unis. L'expulsion des habitants de l'île de Maillon relève d'ailleurs d'un plan prémédité visant à dominer la voie navigable internationale de Bab al-Mandeb et y harceler la résistance. Or, cela n'arrivera jamais, a déclaré Ahmad al-Rawi, à nos cadres d'Ansar Allah dans une interview à la télévision yéménite Al-Masira. Tout au début de l'offensive saoudienne contre le Yémen, de Benjamin Netanyahou, l'ancien premier ministre israélien, avait exprimé des inquiétudes de l'entité sioniste concernant le détroit de Bab al-Mandeb. Et tout au long de ces années de guerre, les Émirats Arabes Unis ont déplacé les habitants de l'île et construit une base militaire conformément aux ordres des États-Unis et de l'entité sioniste. L'ennemi doit tirer une leçon de ce qui lui est arrivé, car nous avons prouvé que notre force pour affronter les occupants au Yémen est nettement supérieure et à Maillon nous pourrons opérer mieux qu'ailleurs, a-t-il indiqué. Les habitants de Maillon disent que l'Arabie Saoudite a déployé un courtier sous l'île pour les persuader de quitter cette zone en échange d'énormes sommes d'argent. Une offre que les habitants ont fermement rejetée. Critiquant Abu Dhabi pour avoir soutenu l'agression contre le Yémen et pillé ses ressources, un responsable de cette province a déclaré « Retirez vos mains qui font pression sur les blessures du peuple. Arrêtez de faire des ressources du Yémen des foyers d'insurrection » et de souligner l'installation de Balhaf devait être une bouffée de sauvetage pour la population en cette période difficile, mais au lieu de la transformer en une source de collecte et d'exportation de gaz et de sauvegarde de la monnaie et de l'économie du pays, voulu de transformer en un centre de formation de milices et d'exportation de la rébellion et la patience des gens à des limites, a-t-il dit en allusion à l'aéroport et au site pétrolier qui l'entoure. Plusieurs factions palestiniennes critiquent la rencontre du président de l'autorité autonome palestinienne avec le ministre israélien de la guerre. Les dirigeants de plusieurs factions palestiniennes, dont le mouvement de résistance islamique Hamas, ont critiqué la rencontre entre le président de l'autorité autonome palestinienne, Mahmoud Abbas, le ministre israélien de la guerre, Benny Gantz. Le porte-parole du Hamas à Gaza, Hazem Qassem, a déclaré que cette réunion allait approfondir les divisions intra-palestiniennes et qu'elle encouragerait certaines parties régionales à normaliser leurs relations avec Israël. Le porte-parole du djihad islamique palestinien a déclaré dans un communiqué que son groupe rejetait cette réunion. C'est un coup de poignard dans le dos du peuple palestinien qui continue à souffrir et à lutter contre l'occupation, a-t-il ajouté. Les factions palestiniennes de gauche, dont le Front populaire de libération de la Palestine, ont également critiqué la réunion, appelant Mahmoud Abbas à résoudre les divisions internes et à unir les Palestiniens au lieu de rencontrer les Israéliens. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
Thank you.